Vous allez entendre Paroles d'archives, une série radiophonique où des jeunes vous parlent d'histoire. Bonjour, je suis Sabine Lemler, je suis metteur en scène de théâtre et je conçois des projets artistiques et pédagogiques. M'adresser aux jeunes, les rendre acteurs de leur apprentissage est une de mes priorités. Avec les artistes Violaine Marie Membolt et Mathieu Gouste, nous avons créé des spectacles historiques et mémoriels. Paroles d'archives, une histoire alsacienne et périgourdine qui raconte l'évacuation des Alsaciens en 1939 et France-Algérie Correspondance qui parle des liens entre la France et l'Algérie de 1830 à nos jours. C'est dans les collèges et les lycées que nous allons les jouer. Chaque représentation est suivie d'un bord-plateau pour échanger avec les élèves afin qu'ils puissent s'exprimer sur ce qu'ils ont vu et qu'ils ne repartent pas avec des questions sans réponse. Dans un désir de prolonger cet espace de parole, nous proposons à des classes l'élaboration d'un épisode pour la série que vous allez découvrir dans un instant. L'idée, c'est que les jeunes s'approprient l'histoire, la grande et la leur propre, qu'ils aillent à la découverte d'archives du passé et que cela leur donne envie d'interroger leurs archives familiales. J'espère pouvoir poursuivre ce projet sur plusieurs années et enrichir cette série radiophonique de multiples voix. Alors bonne écoute et à bientôt!
Paroles d'archives, une série radiophonique où des jeunes vous parlent d'événements historiques du XXe siècle. Cet épisode a reçu le prix Mémoire 2024 de la section départementale de Moselle de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite.
Je ne voulais embêter personne. Rencontre avec une dame extraordinaire. Un épisode écrit par nous, les élèves de 3e 1 du Collège Charlemagne de Thionville.
Vendredi 22 septembre 2023, le théâtre municipal de Thionville fait salle comble. Des centaines de collégiens et lycéens sont venus écouter le témoignage d'une des dernières survivantes de la Shoah. Nous avons eu l'immense privilège d'entendre Madame Ginette Kolinka venue nous raconter son histoire très émouvante et très douloureuse.
Elle arrive à petits pas au bras d'un accompagnateur, souriante et déterminée. Elle a 98 ans, mais pour elle, ce n'est pas encore l'heure de la retraite.
Ginette Kolinka est juive. Elle est née Cherkassky, dans une famille d'origine ukrainienne.
Elle est rescapée du camp d'Auschwitz-Birkenau.
Un officier allemand nous a dit « Si un jour vous avez la chance de vivre, de rentrer chez vous,
René Rhein, rescapé des rafles de Nancy,
vous pourrez raconter ce que vous avez vu, mais même vos parents ne vous croiront pas. »
Avant la guerre, Ginette mène une vie normale dans le 4e arrondissement de Paris. Son père travaille à son atelier d'imperméable et sa mère est femme au foyer.
La famille se compose de 6 filles et Ginette est la petite dernière. Son père, désirant un garçon, la famille accueille un 7e enfant. Un garçon, né 7 ans après Ginette.
La famille vit modestement, mais c'est une famille unie et heureuse.
Avec la guerre, les choses changent. La famille doit se faire recenser comme juive. Un énorme drapeau rouge par chaque carte d'identité de la mention juif.
Pour les désigner à la haine des autres, on leur impose à tous le port de l'étoile jaune.
Ginette s'exclame.
Moi je m'en fous, je suis juive, je le sais, il faut le montrer, ben je le montre.
Dans le même temps, les lois contre les juifs viennent tourmenter la famille. Le père de Ginette n'a plus le droit de mettre les pieds dans sa boutique. Deux des sœurs de Ginette qui ont un étalage au marché n'ont plus le droit de vendre leurs produits.
Tous les petits plaisirs d'avant-guerre sont révolus. La famille reste à Paris jusqu'en 1942, où elle est avertie qu'elle a été dénoncée.
Je travaille à la préfecture de police de Paris et on a posé sur mon bureau un dossier vous concernant. Vous êtes juif et communiste, donc faites attention car vous allez être surveillé de très près. Vous devriez partir en zone libre.
Le père de Ginette ne veut pas quitter Paris, mais soucieux de protéger sa famille, il prépare le départ avec sa fille aînée.
La famille se procure des faux papiers. De généreux amis leur donnent leur nom bien français. Ils leur donnent aussi des renseignements sur leur baptême et leur mariage. Ainsi, ils peuvent répondre en cas d'arrestation.
Le père de Ginette décide de séparer la famille en quatre groupes. Ils doivent se retrouver à Aix-les-Bains. Deux groupes passent sans encombre la ligne de démarcation.
Ginette, elle, est avec deux de ses sœurs. Le passeur n'est pas au rendez-vous. La police procède à des contrôles.
Soudain, Ginette se souvient qu'elle a gardé avec elle sa carte de la salle de sport. Elle était tellement fière d'avoir été admise au club qu'elle n'a pas pu se séparer de sa licence, sur laquelle figure sa vraie identité.
Les trois sœurs sont donc en danger.
Ginette tente bien de faire disparaître la carte dans les toilettes, mais la présence d'une sentinelle la tétanise et elle renonce.
Les trois sœurs n'ont pas le choix. Pour faire disparaître la carte, il faut la manger en petits morceaux.
Une anonyme leur donne une petite bouteille d'alcool pour faire passer le papier.
Ginette, qui n'a jamais bu auparavant, se retrouve un peu saoule.
Au moment du contrôle, elle affirme avec plus d'assurance que prévu.
Non, on n'est pas juive.
Les trois sœurs sont finalement relâchées et poursuivent leur périple pour retrouver leur famille à Aix-les-Bains. La famille Cherkaski part alors pour Avignon, où la sœur aînée de Ginette a pu trouver un logement pour la famille.
Il faut désormais trouver du travail, car il n'y a plus beaucoup d'argent. Ginette et deux de ses sœurs arrivent à être embauchées en tant que secrétaires dans une entreprise. Malgré la guerre, la vie reprend.
Mais le 13 mars 1944, tout bascule.
Ginette rentre manger chez elle durant la pause de midi. Quand elle arrive à la maison, il y a trois hommes inconnus sur le trottoir. Elle reconnaît alors les vêtements de deux de ces hommes, la Gestapo. La famille Cherkaski a été dénoncée. Ginette, à nouveau, crie.
Nous, on n'est pas juifs.
La ruse ne marche pas cette fois-ci. Son père, son frère et son neveu sont sommés de se déshabiller.
Ils sont circoncis, ils sont donc juifs.
Ginette, son père, son frère et son neveu sont alors emmenés dans des tractions. Prévenus, le reste de la famille peut se cacher.
Les malheureux prisonniers partent pour Marseille, où ils restent une quinzaine de jours avant de partir pour Paris. Ils sont internés au camp de Drancy entre le 1er et le 15 avril 1943. On finit par les emmener à Bobigny.
Ginette pense qu'un train de passagers va arriver pour les emmener. Très vite, elle se rend compte que le voyage se fera en train de marchandises.
Les portes sont verrouillées et le train s'en va. Destination Pichipoy. C'est le nom que les Juifs donnent à leur destination inconnue.
Dans la salle du théâtre, nous savons tous que Ginette et sa famille partent pour l'enfer d'Auschwitz-Birkenau.
Le voyage en train est terrible. Les déportés sont entassés dans des wagons à bestiaux. L'odeur est suffocante. La faim et la soif règnent. Les déportés ne peuvent même pas trouver un endroit pour s'asseoir. Ginette se souvient du soulagement ressenti à l'ouverture des portes.
De l'air frais.
Le répit est de courte durée. Les ordres fusent comme les coups. Schnell, il faut faire vite.
Les valises sont laissées dans les wagons. Ginette remarque un camion qui emporte certains déportés.
Pensant leur épargner la fatigue de la marche à pied, elle encourage son père et son frère à y monter.
Il roule vers la mort, mais elle l'ignore.
J'ai tué mon père et mon frère.
À Saint-Ginette, qui aujourd'hui encore se sont responsables de leur mort brutale.
Ginette et les autres déportés descendent du wagon et continuent à pied jusqu'au camp.
Très vite, l'entreprise de déshumanisation commence.
Tout le monde est rangé au garde-à-vous. Soudain, les ordres arrivent et on leur ordonne de se déshabiller. Ginette est malade de honte.
Moi, je ne connais pas ces femmes et je suis nue devant elles.
Elle est tatouée, matricule 78599. Ginette nous regarde.
Mais je m'en fous de mon numéro, j'ai honte, je suis nue.
Dans les camps,
Simone Weil, rescapée d'Auschwitz,
le plus dur était l'humiliation et d'essayer de lutter contre.
Les déportés sont ensuite habillés. Les Juifs n'ont pas le droit aux vêtements rayés. Ils portent de vieux vêtements récupérés sur d'autres déportés. Leurs vêtements à eux seront triés. Les beaux vêtements partiront en Allemagne et tous les autres vêtements sales, mal coupés, mal faits, seront portés par les Juifs.
Pour les Juifs, ça sera largement suffisant.
On arrive dans un endroit qui est froid.
Marceline Loridan, rescapée d'Auschwitz.
Et on commence à nous mettre des numéros de matricule. C'est dur et ça fait mal.
Ginette Kolinka évoque alors les souffrances quotidiennes. Les toilettes sans aucune intimité, sans papier toilette.
Même pas un petit confetti, rien.
On ne se lave pas, on ne change pas de vêtements, même s'ils sont souillés. Le soir, les déportés dorment dans des koyas. 6 personnes par couchette. Des paillasses sales, grouillant de vermine.
Le réveil est vers 4 heures. Il faut tout de suite être dehors pour l'appel du matin.
Ginette reste 6 mois à Birkenau.
Elle n'a pas changé de vêtements. Elle travaille et dort avec.
Ginette avoue avoir pensé à la mort.
Interrogée sur les jours qui passent et se ressemblent, Ginette lance.
Je ne pense à rien. Je suis un robot.
On a eu faim. On a eu soif.
Simone Weil.
On a eu froid. On avait sommeil.
Ginette quitte enfin Birkenau en novembre 1944. Le voyage de retour est épouvantable. Dans le train, Ginette distingue des morts. Arrivée en Tchécoslovaquie, elle apprend que la guerre est finie. La jeune fille, très malade, est emmenée à l'hôpital. Elle ne pèse plus que 27 kilos.
Elle finit par rentrer en France.
Mon premier voyage en avion.
À Lyon, elle doit répondre à plusieurs questions pour savoir si elle a vraiment été déportée. Ginette n'a plus de famille, elle ne peut prévenir personne. Elle est à nouveau emmenée à l'hôpital de Lyon où elle attend sans trop d'espoir que quelqu'un vienne la chercher.
La chance lui sourit. Elle est approchée par une inconnue qui la regarde et la reconnaît comme membre de la famille Tcherkassky.
Oui, je suis une fille Tcherkassky.
L'inconnu lui apprend que sa mère et ses sœurs n'ont pas été arrêtées et qu'elles sont dans leur ancien appartement à Paris. Ginette retrouve sa famille. C'est elle qui annonce à sa mère la mort de son père et de son frère.
Ginette nous explique que pendant très longtemps, elle n'a parlé à personne de son histoire.
Je ne voulais embêter personne.
J'obéis non pas à un devoir de mémoire.
Magda Holländer Lafont, rescapée d'Auschwitz.
Mais à une fidélité. À la mémoire de ceux qui ont disparu devant mes yeux, uniquement parce qu'ils étaient juifs.
Ginette Kolinka Martel, ne pleure pas pour moi. Moi, j'ai de la chance. Je suis vivante.
Ginette Kolinka n'est pas née pour être extraordinaire. Et pourtant, par son histoire, par la volonté qu'elle a de continuer à la transmettre malgré son âge, elle est extraordinaire.
2 heures durant, elle a tenu en respect 800 collégiens et lycéens.
Elle a aboli le temps et l'espace et nous a emmenés avec elle sur les traces de son douloureux passé.
Ginette, c'est la force tranquille, le courage et la ténacité.
Ginette a manqué de tout durant sa déportation. Elle en garde aujourd'hui une aversion contre toute forme de gaspillage alimentaire. Elle nous le dit en riant. Je ne jette jamais rien. Tant pis si je mange parfois de la nourriture périmée. Peut-être devrions-nous avoir plus souvent une pensée pour ceux qui n'ont pas assez quand nous avons trop et jetons beaucoup.
Ginette Kolinka n'a pas de haine en elle. Elle nous invite au contraire à accepter l'autre tel qu'il est, comme il est.
Ginette a fait de nous des passeurs de mémoire. C'est à nous qu'il appartiendra de reprendre le flambeau quand les voix des derniers survivants se seront tues. Grâce à elle, nous sommes prêts à poursuivre son combat contre l'oubli.
Bravo aux élèves Gaël, Yanis, Romane, Nadia, Lucas, Sacha, Romain, Isabelle, Charlotte, Loïc, Anna-Clara, Timo, Baptiste, Juliette, Célia, Svetlane, Lina, Gaël, Isaline et Aldin. Merci à leurs professeurs, Valérie Etrapini, Sandrine Armand, Pascal Im et Marie Sini. Merci aux proviseurs, proviseurs adjointes et principales, Lucien Pietron, Véronique Terrier et Jean-Pierre Clotilde. Merci aux archives municipales de Thionville pour leur accueil et leur aide précieuse. Un chaleureux merci à Madame Ginette Kolinka. Enregistrement, Violaine Marinembold et Mathieu Gouste. Montage et mixage, Mathieu Gouste. Sur une idée de Sabine Lemler, conçue par la compagnie VIA de Strasbourg. Création musicale, les élèves de terminale de la section musique du lycée Marie Curie de Strasbourg et leur professeur Marie-Annick Guillemin. Merci à nos partenaires, la Région Grand Est, l'Organisme national des combattants et victimes de guerre, les archives départementales d'Alsace, la collectivité européenne d'Alsace, le Pass Culture et le Crédit Mutuel.